nous nous rassemblons dans ce lieu, notamment, que ce soit pour le culte d'adoration, que ce soit pour nos réunions hebdomadaires, le mercredi soir, et samedi qui vient pour la réunion de prière mensuelle. C'est Dieu qui nous invite à ces solennels rassemblements. Et donc, si c'est Dieu qui nous invite, s'il était présent, nous serions tous là, présents avant l'heure. Et donc, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, Dieu, lorsqu'il nous invite à une heure précise, ça s'appelle de l'autodiscipline, nous devons, par respect pour notre grand Dieu, d'être tous là avant que le culte ne commence à 10 heures. Chacun doit prendre ses dispositions, et dès l'instant où tout le monde est réuni, et ça, telle est la volonté de Dieu, c'est une église unie qui se voit lorsqu'elle commence un culte ou une réunion de prière ou d'études bibliques à l'heure qui est prévue, parce que c'est Dieu qui nous invite. Et donc, on ne devrait jamais voir arriver les personnes au fil de l'eau. Au fil de l'eau, entre 10h et 10h30, chacun doit savoir, lorsqu'il se réunit avec d'autres frères et sœurs, et que cela est planifié par l'Église elle-même, que nous devons tous être à l'heure, voire avant, bien sûr, pour que nous puissions nous recueillir, peut-être nous saluer, et que nous commencions à l'heure la réunion pour laquelle nous sommes réunis. Ce n'était pas le cas ce matin. Donc oui, une Église unie qui se voit, c'est mon sujet. Telle est la volonté de Dieu, et tel pourrait être, mes amis, le titre de notre méditation. Alors vous savez que en politique, eh bien, chaque parti cherche à rassembler ses forces pour paraître uni et donc parler, si possible, d'une seule voix, de manière à convaincre ses électeurs. On voit ça tout le temps. Et très souvent, ils y arrivent. Et je me suis même aperçu, peut-être que si vous suivez ça un petit peu, vous vous en êtes aperçu aussi, il y a même des partis dits chrétiens, des listes chrétiennes. Mais j'ai très vite personnellement déchanté en lisant leur programme, parce que lorsqu'une liste se présente, eh bien, il y a toujours forcément des programmes. J'ai vite déchanté lorsque j'ai pu lire comment elle définissait elle-même la foi et l'espérance. Pas du tout en correspondance avec ce que dit la parole de Dieu. Malheureusement. Bref, ce principe de rassemblement et de solidarité humaine m'a aidé à y voir une ressemblance avec l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais pour l'édification de tous ce matin regarder avec vous comment le peuple de Dieu de l'Ancien Testament et comment l'Église, la première Église du Nouveau Testament, tous deux d'origine divine, s'est comportée dès l'instant où l'Église, alors parlons d'elle, hein, mais on pourrait parler du peuple d'Israël également, a su qu'elle était rachetée par le sang de Jésus-Christ. Il y a eu un réel chamboulement dans la vie de chacun, un comportement nouveau, des attitudes nouvelles. Est-ce que nous voyons ça aujourd'hui dans l'Église à laquelle nous faisons partie d'ailleurs? Des changements nouveaux, des comportements nouveaux, des attitudes nouvelles? Et donc, Il y a ce magnifique passage de 1 Corinthiens 12 qu'on ne va pas lire, hein, et qui nous montre, qui nous démontre à la fois ce qu'est l'Église de Jésus-Christ et comment elle doit fonctionner comme un corps solidaire, vivant, où les membres sont liés les uns aux autres. Tout est lié dans ce même corps. Et lorsque le corps avance, alors c'est tout entier, tous les membres avec qui avancent. Un des membres ne peut pas faire quelque chose sans l'aval des autres. Tout est lié. Et l'image du corps qui est prise dans ce chapitre est absolument extraordinaire. Eh bien, je vous invite maintenant, pour enrichir nos pensées sur le sujet de l'unité visible, qui doit être visible, de l'Église, à prendre avec moi un texte dans l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre de Néhémie, s'il vous plaît. Néhémie, chapitre 8. Et puis, nous lirons les versets 1 à 12. Et on va faire un exercice ensemble. Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 12. J'attends que chacun s'y positionne, mais je peux simplement dire que à l'époque où Néhémie a écrit tous ces passages, et le chapitre 8, bien sûr, compris, nous sommes au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et même on peut dire aux alentours des années 444, c'est facile à retenir, 444 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone, ou en Babylonie, un peu partout en Babylonie, à cause de sa désobéissance et son égarement envers Dieu. Et après 70 ans d'exil, il y a eu trois vagues successives de retour en Israël, et en particulier à Jérusalem. Et là, au moment où nous nous situons dans Néhémie chapitre 8, les murailles de Jérusalem viennent d'être édifiées. Le travail a été terminé. C'est tout le peuple d'Israël qui s'est rassemblé, s'est solidarisé, a mené un effort constant, et tous ensemble, pour construire ou reconstruire les murailles de Jérusalem. Et donc, le peuple d'Israël, au moment de Néhémie chapitre 8, est à nouveau en sécurité dans sa ville. Le temple, lui, avait été reconstruit 70 ans auparavant, vers les années 516-517 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est Esdras, le livre d'Esdras, qui nous le raconte. Et là, 70 ans plus tard, nous sommes dans Néhémie, c'est la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et maintenant, tout le monde se sent en sécurité dans sa ville. Et chacun peut s'adonner à quelque chose d'essentiel que nous raconte Néhémie, chapitre 8. Alors, pour lire ces 12 premiers versets, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Tous, sans exception, sauf ceux qui ne peuvent pas. Je parle les personnes valides, adultes comme enfants, et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque on devient chrétien, il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. C'est joindre sa foi à la réalité pratique d'une vie qui glorifie Dieu. Verset 1er. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Je m'arrête un instant. Comme un seul homme. Ils étaient tous rassemblés. À l'heure prévue, au moment prévu, ils étaient tous présents avant que la réunion ne commence. pas chacun arrivant 5 minutes les uns après les autres. Parce qu'autrement, la réunion ne serait jamais démarrée. Non ? Dieu avait conduit tout cela dans les cœurs. Et le texte nous dit, il donne le ton directement à tout ce texte que nous allons lire. Il se rassembla comme un seul homme. Et l'image est forte. C'est comme un seul homme qui arrive sur le lieu de rassemblement en même temps. C'est ce que nous faisons, nous, frères et sœurs, mes amis ? Non. Continuons. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, c'est-à-dire adolescents comme enfants. Tout le monde doit être présent pour écouter, pour entendre dès l'instant où il a la capacité d'écouter, d'entendre et de recevoir. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes. Jusqu'au milieu du jour. Des heures et des heures. Il ne s'agit pas de regarder sa montre en se demandant quand est-ce que le culte se termine ce matin pour aller manger. Ni de dire le culte s'est terminé 5 minutes plus tard parce que j'ai d'autres choses à faire. Tout le peuple fut attentif. Pendant toutes ces heures-là, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, et je vais le dire avec l'accent français, se tenaient Matititia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Ça veut dire un peu surélevé, comme cette estrade. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Ah, pardon, c'est mal traduit. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se mit debout. C'est la traduction littérale. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Alors on reste debout, mais vous imaginez la scène. Ils se sont ensuite accroupis et se sont inclinés le visage contre terre pour adorer Dieu. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akub, Shabetaï, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. » Pas 2 heures hein, de culte, hein, ce jour. Toute la journée. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. » Voyez le bien qui était fait durant ce jour mis à part, chacun faisait le bien. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant : taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous pouvez vous asseoir. Elle est belle, la parole de Dieu. Souvenez-vous aussi quels étaient, dans Actes chapitre 2 notamment, les traits caractéristiques de la première église. Et bien sûr, ce qui doit aussi caractériser l'église d'aujourd'hui dont nous sommes les membres. C'est évident. Alors je vais les citer. C'est l'attachement et la persévérance dans quatre choses essentielles, d'ailleurs Marc les a un peu citées tout à l'heure, et qui sont clairement identifiées dans ce passage de Actes 2. La première chose, c'est l'enseignement des apôtres. Donc ils étaient attachés tous, et ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, eh bien, il y a la communion fraternelle. Ils s'étaient attachés et ils persévéraient tous dans la communion fraternelle, qui est le fait de vivre ensemble les réalités du royaume de Dieu ici-bas, dans un même esprit, dans un même amour, dans une même foi. Et puis, il y a ce que la Bible appelle, c'est parfois pas toujours bien compris, la fraction du pain. La fraction du pain, qui en fait c'est le repas du Seigneur dont le souvenir quotidien à l'époque, c'était quotidien parce qu'il y avait les agapes avec, leur rappeler la croix qui est le fondement de leur foi. Sans fondement et rappel de ce fondement, tout s'écroulait. Hein. Et puis enfin, il y a les prières. Ils s'étaient attachés et ils persévéraient aussi, nous dit le texte, dans les prières, qui exprimaient autant leur reconnaissance, comme nous l'avons fait ce matin, que leur dépendance de Jésus-Christ en faisant leurs requêtes et leurs demandes avec supplication et action de grâce. Et on pourrait aussi ajouter qu'ils s'étaient attachés et persévérés également dans les louanges, nous dit le texte. Dans les louanges, qui sont l'expression orale d'une vraie adoration. On loue, quand on loue, on ouvre la bouche, tout le monde entend. C'est l'expression orale de l'adoration. Toutes ces caractéristiques-là qui sont fortes, des premiers chrétiens qui sont faites donc d'attachement, de persévérance, d'engagement dans ces choses, elles se voyaient. Ça se voyait. Et c'est pour ça que j'ai intitulé voilà, cette méditation « Une église unie qui se voit ». Ça se voyait à tel point que eh bien, des gens de l'extérieur qui voyaient ce qui se passait, eh bien, devenaient à leur tour des chrétiens. Et Dieu, nous dit le texte, c'est lui qui faisait l'œuvre. Ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et toutes ces personnes avaient donc des attitudes nouvelles vis-à-vis de Dieu que le Saint-Esprit avait fait naître dans leur cœur parce qu'ils avaient compris de quelle grâce ils avaient été les uns et les autres l'objet de la part de Christ. Mais ces attitudes nouvelles de la première Église n'étaient pas nouvelles, parce que le texte de Néhémie, chapitre 8, nous montre qu'il en était de même à l'époque d'Israël. Des attitudes nouvelles. Lorsque les enfants d'Israël ont compris de quel amour l'Éternel les aimait, parce que le sens des Écritures leur avait été donné, alors ils adoptèrent un comportement, des attitudes nouvelles qui glorifient Dieu. Et le premier verset de Néhémie 8 nous montre, donne le ton à ce passage et nous montre comment ces attitudes-là étaient nouvelles. Et donc j'aimerais, à travers ce passage du livre de ce chapitre de Néhémie, mettre en valeur trois attitudes nouvelles, pour être un peu plus structuré. Trois attitudes nouvelles qu'avait adopté le peuple d'Israël, mais également la première Église, et que nous devrions, sans qu'on nous le demande, adopter. Le faisons-nous? Et c'est ce que Dieu peut attendre des chrétiens d'aujourd'hui, guidés et conduits par le même esprit que celui qui habitait le peuple d'Israël au temps de Néhémie et que celui qui habitait les premiers chrétiens de manière permanente, cette fois-ci, dans la première Église. Et ces trois attitudes dont on va parler sont le résultat de l'action de Dieu dans le cœur. Alors il y a un verset qui nous l'affirme, Ésaïe 26, chapitre 26, verset 12, nous dit « Tout ce que nous faisons, les attitudes que nous prenons, les comportements, les actions que nous faisons lorsque nous sommes à Dieu, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est l'œuvre de Dieu en nous. » C'est formidable de savoir ça. Alors la première attitude visible de tous, on va prendre un certain temps pour le voir et que cela nous édifie tous ce matin. La première attitude visible de tous est celle d'un peuple donc tout entier qui se rassemble et qui s'engage comme un seul homme. Actes chapitre 2 verset 44 nous dit la même chose. Et là, on saute à la première Église. Même comportement, même attitude. Il est dit, acte 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils n'arrivaient pas dans le même lieu à des heures différentes. Ils arrivaient pour s'attacher et persévérer dans les quatre piliers de la foi qu'on a cités tout à l'heure. De manière coordonnée, d'une manière ordonnée. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre qui coordonne l'action du corps pour sa gloire. Parce qu'il en est la tête. Et vous savez que c'est la tête qui coordonne toutes les actions du reste du corps. Et c'était nouveau pour ces 3000 âmes de Acte 2 qui étaient devenues chrétiennes. C'était nouveau ça. Avant... alors qu'ils n'étaient pas devenus chrétiens, ça ne se faisait pas. Mais voilà une attitude nouvelle qui est là. Et c'est pourquoi la Bible dans Néhémie 8 et Acte 2 nous le fait remarquer. Parce que c'est nouveau. La Bible ne parle pas pour ne rien dire. Elle parle pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Nous avons vu ça mercredi soir. Il y avait peu de monde d'ailleurs. Pourquoi ? J'en sais rien. Et c'était nouveau aussi pour les enfants d'Israël qui venaient de traverser des années terribles. une période moralement et spirituellement désertique à cause de cet exil de Babylone qui a duré des décennies, 70 ans. Et ils ont laissé derrière eux un temple qui a été détruit. Et là, c'était la catastrophe pour eux. Cela ne permettait plus pour eux d'accomplir leur vocation de témoins et d'adorateurs de l'Éternel, puisque le peuple se rassemblait pour adorer Dieu dans le temple. Mais voilà, en dépit de ces circonstances difficiles et malheureuses, les livres de Esdras et Néhémie que je vous encourage à lire, parce qu'ils sont édifiants pour nous aujourd'hui, nous décrivent une période nouvelle. Une période nouvelle. Et on peut même dire un réveil spirituel qu'on aimerait voir aujourd'hui dans les églises, que j'aimerais voir à Savigny. Car dans les faits, on y voit un peuple qui se mobilise et qui se met en marche pour entreprendre la restauration de son identité qui avait été perdue parce qu'ils avaient tous été dispersés. Et donc là, Dieu les rassemble pour retrouver leur identité et leur identité de croyant en Israël. En tant que peuple de Dieu. Et donc, redevenir, parce que ça, ils ne le faisaient plus, de vrais adorateurs de Dieu et de vrais témoins par lesquels Dieu veut parler au monde à cette époque-là, c'était vrai aussi. Et concernant l'Église du premier siècle, d'être témoin de Jésus-Christ, Dieu le voulait pour que, eh bien, tous ces témoins parlent de Jésus-Christ et de sa mort et de sa résurrection au monde. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, Paul avait parlé de la résurrection à ceux qui l'entouraient. Donc le début de ce chapitre 8 donne tout de suite le ton à cette mobilisation. Et ça, c'est quelque chose. Une mobilisation générale où tout le monde, uni comme un seul homme, s'est rassemblé à la porte des eaux, nous dit le texte, la porte des eaux, c'est une des entrées sud de Jérusalem. Et alors que le temple avait été reconstruit depuis, ils ne s'étaient pas réunis au temple, ils s'étaient réunis à l'extérieur, à la porte des eaux. Et à cette porte des eaux, il y avait une grande place, c'est ce que dit le texte. Et cette place et donc était un lieu public, ouvert à tous, et accessible à tous. Et donc, tout le monde voyait ce qui s'y passait. Un peuple uni, ou une église unie, qui se voit. Est-ce que nous sommes une église unie qui se voit ? Qui se voit de l'extérieur, hein, j'entends. Pas trop, parce qu'il y a tous ces murs là qui sont difficiles. Mais l'Église de Jésus-Christ ne se définit jamais entre quatre murs. Elle se définit par les personnes. Que ce bâtiment un jour soit détruit, l'Église continuera d'exister. Voilà donc, mes amis, un peuple décidé, résolu en son cœur, de se rassembler d'abord, de se mettre au travail et au service de Dieu ensuite. Le tout dans une confiance et un enthousiasme qui est nouveau, comme on va le voir, et qui procure la foi en Dieu. Ah, il y a encore des petites choses qui restent dans le cœur parce que, à l'écoute de la parole, le peuple a pleuré. Hein, vous avez suivi la lecture du texte. Le peuple a pleuré. Et donc les 3000 âmes que Dieu venait de sauver aussi dans Actes chapitre 2 s'étaient aussi rassemblées comme un seul homme avec les apôtres pour rendre à Dieu un culte qui était quotidien. Ils étaient conscients, tous, que la seule attitude raisonnable et juste était celle-là. Est-ce que nous avons aussi conscience de cela? C'était de se donner pleinement corps et âme à celui qui les avait tant aimés. Alors, si vous voulez prendre avec moi Romains chapitre 6, voilà quelques versets qui peuvent nous accompagner. Romains chapitre 6. Et dans un premier temps, on peut lire le verset 13 de Romains chapitre 6, qui nous dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et puis, si vous tournez la page au chapitre 12, de la même lettre, et au verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, que ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La vitalité de l'Église, corps de Christ, est donc produite là par le Saint-Esprit qui agit et qui exhorte chaque homme et donc chaque femme qui en fait partie à se reconnaître comme membre du corps de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 12, dont je parlais tout à l'heure, a toute sa place. Et nous sommes appelés, nous aussi, à servir le Seigneur comme un seul homme. Je ne vais pas m'attarder sur ce premier point. Unis dans un même esprit, dans une même foi, pour marcher ensemble. L'effort est commun. Il est solidaire. Et il est entrepris par amour pour Dieu et pour ses frères et sœurs. Donc quel exemple pour nous, n'est-ce pas, que la parole de Dieu nous laisse. Et quel appel solennel à imiter nos frères dans la foi. Une deuxième attitude nouvelle. Alors je reviens dans Néhémie, revenez avec moi si vous étiez parti de là. C'est celle qu'adopte tout le peuple, chacun en particulier. Et je le disais mercredi, là c'est la même chose. C'est tout le peuple, mais ça a deux sens. C'est tout de manière globale et chacun individuellement. C'est donc une nouvelle attitude, une deuxième en quelque sorte, nouvelle attitude que chacun individuellement à adopter, et en particulier face à la parole de Dieu. Face à la parole de Dieu, parce que quand il y a un réveil dans un lieu particulier où des croyants se réunissent, ce réveil spirituel a toujours, est toujours en rapport avec la parole de Dieu. Toujours. Vous voyez, aucun réveil spirituel en dehors de ce contexte-là. Dans la Bible. Et j'ai relevé plusieurs attitudes qui en fait n'en font qu'une et qui traduit la crainte, le respect que chacun avait devant Dieu. Et vous allez voir, hein, c'est du concret. Et en particulier face à la parole, accompagner bien sûr les uns et les autres de cette soif de connaître Dieu et sa volonté. Alors regardons le verset 3 par exemple. Je pourrais prendre plein d'exemples. Il est dit, verset 3, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et là, c'est oui, c'est tout, globalement, et chacun en particulier. Il n'y avait pas d'exception. Les adultes, comme les adolescents qui étaient présents, comme les enfants, avaient aussi appris, grâce à leurs parents, qui les avaient éduqués pour cela, à rester et à être attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. et à soutenir bien durant ce rassemblement. C'est la responsabilité des parents d'assurer cela. Notez aussi le temps passé, je l'ai dit tout à l'heure, à la lecture de la parole. Alors, ils s'étaient rassemblés et j'ai essayé peut-être de calculer un peu, ce n'était pas une demi-heure ou une heure, mais 6 heures environ. Environ 6 heures, au cours desquelles tout le peuple était resté attentif. 6 heures. Peut-être les gens avaient amené leur sandwich, mais en tout cas, ils étaient restés attentifs pendant toutes ces heures-là. Mais ce n'est pas terminé. Verset 5, regardez avec moi. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se mit debout. C'est la traduction littérale. Tout le peuple s'est mis debout avant même la lecture, au moment où Esdras ouvre la parole, au moment où il l'ouvre. Respect mutuel. Quelle attitude nouvelle. Tout le monde se lève à l'ouverture de la parole de Dieu, sans qu'un seul mot ne soit encore prononcé. Et donc, quand on lisait, on ouvrait la parole de Dieu, quand on la lisait à l'époque, il n'y avait pas une mouche qui volait. Il n'y avait pas un bruit qui se faisait. Lorsque les gens arrivaient, ils stoppaient là où ils étaient parce que la parole était lue. On ne faisait pas de bruit en ouvrant la porte. On restait au seuil, on attendait. La parole de Dieu était lue. On l'a respecté à 200%. Parce que c'est comme si Dieu, en personne, parlait à tous. Alors, attitude totale de respect. Et tout le monde se levait, avant même qu'un mot ne soit prononcé. C'est ce que nous faisons ici. Lorsque la parole de Dieu est lue, alors il y a du bruit partout, enfant comme adulte. Non, quel irrespect. Peut-être que cela nous rappelle comment Paul, Silas et Timothée avaient décrit la manière dont les chrétiens de Thessalonique avaient reçu la parole de Dieu. Regardez avec moi, 1 Thessaloniciens 2. Un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi, alors, Paul, Silas et Timothée, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, comme si Dieu parlait directement à travers elle. C'est comme ça qu'on écoute et que l'on reçoit la parole de Dieu. Ou alors, c'est qu'on ne lui appartient pas, si on n'a pas cette attitude-là. Acte 2, verset 43, nous montre la même attitude chez les chrétiens de la première église. Il nous est dit, acte 2, 43, la crainte s'était emparée de chacun. Ça veut dire beaucoup de choses, la crainte, sans rentrer dans les détails, mais c'est une attitude de respect. Car ils étaient tous conscients que Dieu était présent et qu'à travers la parole qui était présente également, eh bien, il se devait d'avoir une attitude respectueuse, sainte, qui glorifie Dieu. Qu'en est-il de nous? De mon attitude? De mon temps passé à lire la parole? À l'écouter? À la recevoir pour qu'elle agisse, comme nous dit 1 Thessaloniciens 2:13. Parce qu'elle est ma nourriture de tous les jours pour nourrir ma foi et entretenir ma vitalité spirituelle. Et tous les croyants de l'époque, que ce soit en Israël ou que ce soit la première église, eh bien, ils en avaient véritablement conscience. Et puis enfin, une troisième attitude, nouvelle aussi, parce que les trois attitudes sont nouvelles. Elle est le fruit que produit le Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs, et qui donne à la vie du corps de Jésus-Christ son dynamisme. C'est la force, et là, nous revenons dans le texte de Néhémie chapitre 8, c'est la force que procure la joie de l'Éternel. Vous avez remarqué ça ? La joie de l'Éternel est ma force. Oui, mais pour que la joie soit présente et soit une force, il faut qu'elle soit précédée d'une tristesse sincère. Avant la joie, il y a la tristesse. Avant la gloire, il y a la souffrance. Jésus-Christ est passé par le même chemin. Cela, oui, doit se traduire par une joie visible chez les croyants, chez les chrétiens. Pourtant, le peuple, comme nous le montre ce texte, avait été saisi d'un profond sentiment de tristesse, au point que ils étaient tous en train de pleurer, parce qu'ils pensaient à ce qui s'était passé auparavant, comment ils s'étaient tous égarés, comment ils avaient désobéi à Dieu et à sa parole. Et Dieu avait utilisé Babylone pour les discipliner. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes conscients que nous continuons à pécher devant Dieu, dans nos attitudes, dans nos comportements, ou pas ? C'est la Bible, la parole de Dieu qui va me montrer si je me suis égaré ou pas. Et qui va me permettre de rectifier le tir, si j'ose dire. Et face aux exigences de la sainteté de Dieu, tout le peuple s'humilie dans une vraie repentance à cause des péchés dont ils s'étaient tous rendus coupables, sans exception. Et regardez avec moi ce texte, c'est un verset qu'on avait pris avec Marie-Christine, on avait appris par cœur quelques jours après notre mariage, il y a 40 ans. 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7, nous dit ceci, versets 9 et 10. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Eh bien, la tristesse selon Dieu va produire du fruit qui s'appelle la joie. Et la joie est un fruit de l'esprit qui va dynamiser le corps dans son action, dans son service pour Dieu. La joie d'avoir été libéré du péché, d'avoir été pardonné, et de se laisser conduire maintenant par le Saint-Esprit. Dieu veut me communiquer cette même grâce qu'il avait communiquée à la première église et au peuple d'Israël. À cause de son œuvre en Jésus-Christ, il me dit « Ne t'afflige pas, car la joie de l'Éternel est ta force. » Ah oui, mais tu dois au préalable te repentir devant Dieu et te confier en lui par la foi pour le reste de ta marche ici-bas. C'est une joie céleste qui vient d'une source inépuisable, qui peut nous combler même au milieu des frustrations, des difficultés, des insatisfactions, des épreuves. Et nous tous, nous en avons, bien sûr. Tout le peuple l'avait compris et s'était tout de suite réjoui ensemble. Quelle attitude nouvelle! Et les premiers chrétiens également prenaient leur nourriture, nous dit le texte de Actes 2. Comment ? Avec joie et simplicité de cœur. Des attitudes toutes nouvelles, qui changent tout, qui glorifient notre Dieu. Et ça se voyait. Qu'est-ce qui se voyait ? Une solidarité commune, une action commune, un rassemblement commun, comme un seul homme. Le respect commun face à la parole de Dieu, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. La joie qui était communicative, qui venait du fruit, qui vient du fruit de l'esprit, ça se voyait. Et le Seigneur, dans sa grâce, ajoutait à l'Église à ceux qui étaient sauvés. Mes amis, c'est effectivement l'Église corps de Christ que Dieu veut voir en action comme un seul homme. Alors crions-lui ensemble. Seigneur, ça a déjà été dit. Que veux-tu que nous fassions ensemble pour la rentrée de septembre? Il y a plein de choses à voir, entrevoir. Nous sommes à ta disposition parce que nous sommes à toi. Et mes amis, ensemble, ça commence par la prière, la recherche en commun de la volonté de Dieu. Pour que le Seigneur, à travers la prière et la parole de Dieu, nous parle. Et que nous ayons une vision globale d'ensemble. Et comme un seul homme, que nous avancions, que nous marchions. Ensemble également. C'est l'Église tout entière que Dieu veut voir attentive et pleinement respectueuse devant sa parole. Une Église prête à l'écouter, à s'y soumettre et à obéir. Est-ce que nous lui obéissons ? Enfin, c'est le cœur tout entier que Dieu veut voir dans la joie. Mais libéré du péché. Parce que cette joie, c'est la clé du contentement et de l'attente en silence du secours de Dieu en son temps. Parce que Dieu sait faire toutes choses bien en son temps. Est-ce que nous voulons ensemble, comme Israël, comme la première église qui l'ont vécu, que ces choses-là se réalisent en nous, ces attitudes nouvelles, voilà, produites par la parole de Dieu et rendu actif par le Saint-Esprit qui agit. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Véritablement. Si je le suis, alors laissons-nous guider par le Saint-Esprit qui m'a parlé ce matin ou à d'autres moments. Et si je suis un enfant de Dieu, il me faut toujours plus comprendre ma place dans le corps de Christ, et ma fonction dans ce même corps dont je suis membre si je suis devenu chrétien, et laisser donc la tête qui est Jésus-Christ me diriger pour que ces trois attitudes nouvelles que nous avons vues honorent et glorifient notre Dieu. Réfléchissons à tout ça avec sérieux, parce qu'il en est de l'honneur de notre Dieu, que souvent nous bafouons par nos attitudes et nos comportements. Et laissons-nous corriger par Dieu et par sa parole. Dieu véritablement ne bénit que ses enfants qui lui obéissent. Il réserve des bénédictions incroyables à ceux qui lui sont attachés et qui lui obéissent. J'aimerais que, pour terminer, qu'on lise ce passage de Actes 2 et que nous chantions ensemble un dernier cantique, Actes 2, avant de nous saluer et de nous séparer. Actes 2, puisque nous y étions, versets 46 et 47. Ils étaient, en parlant des chrétiens, qui s'étaient fait baptiser, bien sûr, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, au niveau des horaires. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu avait béni cette Église parce qu'elle lui obéissait. Réfléchissons. Réfléchissez. Je vous invite à prier. On va se lever pour prier et puis entonner ensemble le chant 151 sur les ailes de la foi, qui nous parle justement de la parole de Dieu. Merci notre Dieu pour ta parole qui est vraiment une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier qui éclaire nos vies, qui nous montre nos égarements, nos péchés. Je te prie, Seigneur, que tu agisses dans nos cœurs pour nous montrer là où peut-être souvent nous t'avons offensé ou nous t'offensons encore aujourd'hui dans nos attitudes, alors que tout devrait être nouveau pour nous, nous qui sommes devenus tes enfants, parce que tu nous dis que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Donc, avec un esprit nouveau, une attitude nouvelle, un comportement nouveau, qui ne peut que t'honorer et te glorifier. Et cela aussi en lien avec tous les frères et sœurs que tu nous as donnés dans l'Église. Alors, Seigneur, rassemble-nous comme une Église unie qui se voit, dans l'unité d'une foi agissante pour ta gloire, respectueuse de ta parole en tout temps, en tout lieu, et remplie de la joie que procure le Saint-Esprit. Que, Seigneur, tu te glorifies à travers nous et à travers ton Église, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen.